France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'année 1975, désignée par l'ONU comme Année internationale de la femme. Cet événement mondial est décidé par les Nations Unies donc, alors qu'au début de la décennie 70, des voix s'élèvent un peu partout dans le monde, et notamment dans l'Hexagone, pour défendre le droit des femmes et abolir les rapports de pouvoir et de domination qui les entravent. En France, le président Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974, nomme 6 femmes au gouvernement et crée un secrétariat à la condition féminine. François Giroud, qui le dirige, est également chargé d'organiser en France cette année internationale de la femme, aussi médiatisée que controversée et parfois même boycottée. En ce temps-là, à la fois proche et lointain, une idée se fraye un chemin en questionnant l'absurde. Comment se fait-il que les femmes qui sont aussi nombreuses que les hommes sur cette terre ont moins de droits que dans nos sociétés modernes? Pire, c'est que cette question est encore d'actualité. Petite précision, nous avions prévu de vous proposer ce récit inédit il y a 2 semaines, le 8 mars, bien sûr, mais la guerre en Ukraine a légitimement bouleversé notre programmation. Notre invitée aujourd'hui, Fatima Benomar, militante pour les droits des femmes, cofondatrice de l'association Les Effrontées, née autrice du livre « Féminisme, la révolution inachevée », publié en 2013 aux éditions Bruno Le Prince. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Des milliers de femmes ont bruyamment manifesté hier dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Ces manifestations, qui ne doivent s'achever que ce soir, sont organisées par le mouvement de libéralisation de la femme.
Des banderoles proclamaient « Sœurs, unissons-nous pour mener notre combat » ou demandaient « À travail égal, salaire égal ». Quant au sénateur démocrate Randolph, il a violemment pris à partie les ligues féministes, qualifiées, selon lui, de petites bandes décervelées sans soutien-gorge.
Plus inattendu, la petite manifestation organisée à Paris par le mouvement de libération de la femme française.
Et à l'Arc de Triomphe, un groupe de femmes, dont l'écrivain Christiane Rochefort, auteur du Repos du guerrier, a voulu déposer une gerbe de fleurs en hommage à la femme du soldat inconnu. Nous voulons, disaient les militantes, nous solidariser avec les plus inconnues, les plus obscures, les plus humiliées des femmes. La police a dispersé les manifestations et emmené plusieurs militantes au poste pour vérification d'identité.
Le 26 août 1970, 9 femmes tentent de déposer des fleurs sous l'Arc de Triomphe à Paris en l'honneur de la femme du soldat inconnu. Un homme sur 2 est une femme, dit une banderole. La police intervient en effet, mais cet acte symbolique signe publiquement la naissance de ce qu'on désignera bientôt le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, par analogie avec le Women's Lib American. 26 ans seulement après que les Françaises ont obtenu le droit de voter, ce mouvement féministe et non mixte focalise ses revendications sur des questions liées au corps et à la sexualité, en particulier le droit à la contraception et à l'avortement libre et gratuit. À cette époque, le MLF n'est pas encore une organisation officielle. Ses militantes, bien que de différentes tendances, entendent se distinguer tant des partis politiques de gauche et d'extrême gauche, où il existe aussi des groupes de femmes, que des associations féminines traditionnelles. Parfois subventionnées par l'État, ces associations sont critiquées par le mouvement de libération des femmes qui les juge trop modérées, même si leurs objectifs se rejoignent en partie. Révolutionnaire, radical, réformiste, modéré, institutionnel, universaliste, différentialiste, marxiste, socialiste, le féminisme se développe au milieu de la décennie 70 sous des formes variées. Et puis il se trouve que le président des années 70, Valéry Giscard d'Estaing, promet pendant sa campagne de légaliser l'avortement, lui qui entend incarner le renouveau et la modernité. Avec son premier ministre, Jacques Chirac, qui nomme 6 femmes au gouvernement, c'est une première. Simone Veil est ministre de la Santé et la journaliste François Giroud, secrétaire d'État chargée de la condition féminine, une fonction inédite. Fondatrice de l'hebdomadaire L'Express, alors connue pour ses positions contre la colonisation, c'est une femme de gauche qui est nommée dans un gouvernement de centre-droit, une politique d'ouverture avant l'heure et qui surprend bien sûr.
Sur le perron, Françoise Giroud apparaît un peu surprise et fort souriante.
Je crois que c'est un poste important dans l'esprit du président de la République et du Premier ministre. Je crois qu'il attache beaucoup de prix à ce que la condition féminine soit considérée, améliorée, à ce que l'égalité des droits entre les femmes et les hommes soit recherchée, en tout cas sinon atteinte, pour le mieux des femmes et des hommes. Je ne voudrais pas surtout que l'on pense, parce que je ne le pense pas, que travailler pour les femmes consiste à travailler contre les hommes. Ce n'est pas vrai.
Servira d'alibi, écrit l'Humanité, tandis que les militantes du MLF, elles, dénoncent la récupération politique de leur lutte par un gouvernement de droite opportuniste qui masque sous une soi-disant condition féminine le système d'oppression auquel ils participent. François Giroud, qui a soutenu François Mitterrand à la présidentielle de 1974, explique avoir accepté ce poste parce que, dit-elle, le féminisme n'est ni de droite ni de gauche. Entre le mouvement de libération des femmes et le secrétariat à la condition féminine, ce sont deux visions qui s'opposent. François Giroud, d'ailleurs, le dit dans Le Monde, elle n'est pas féministe. À la veille de l'année 75, elle crée cinq groupes de travail sur cinq thématiques qu'elle a elle-même définies. Les femmes en milieu rural, les discriminations juridiques, les mutations professionnelles, le développement du sport féminin et la place des femmes dans les structures politiques. Son projet, proposer d'ici un an 100 mesures en faveur des femmes, tout en chapeautant l'organisation en France de l'année internationale de la femme, événement souhaité par l'ONU en 75. François Giroud l'explique ainsi.
Chaque année, l'ONU déclare qu'il y a l'année de la population, l'année de ceci ou de cela. Cette année, les femmes, peut-être parce que c'est un peu la mode, mais pas dans le sens péjoratif du terme, c'est aussi positif que ce soit la mode. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la situation des femmes, en particulier aux États-Unis, où, comme vous savez, il y a eu même des révoltes assez vives dans la population féminine. Il se trouve que le siège des Nations Unies est à New York. Par conséquent, ceux qui la dirigent y ont peut-être été particulièrement sensibles. D'autre part, c'est vrai qu'il y a eu en France un phénomène qui a été ressenti en général dans le monde entier. Mais enfin, l'année internationale de la femme a été décrétée avant.
Intensifier les prises de conscience et de décision en favorisant un dialogue à l'échelle internationale, c'est l'objectif que se sont fixés les Nations Unies avec cette année internationale de la femme, à une époque où les luttes pour les droits de chacun et de chacune traversent l'ensemble des continents. L'événement majeur que l'ONU soutient en cette année 75, c'est donc une conférence mondiale à destination des délégations gouvernementales et qui doit se tenir à Mexico pendant l'été. L'autre rencontre, dans un contexte international encore marqué par la guerre froide, prend la forme d'un congrès destiné aux associations féminines voulu par la Fédération démocratique internationale des femmes, une association à tendance communiste et qui doit se tenir à Berlin-Est fin octobre. Deux événements d'ampleur auxquels s'ajoutent des rendez-vous nationaux planifiés par les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. La France, sous l'égide de François Giroud, entend bien faire coïncider cet événement international avec l'agenda politique du gouvernement. Le 27 janvier 1975, c'est en Belgique qu'un comité d'honneur composé de 4 femmes et 71 hommes lance les festivités à coups de petits fours. Le budget alloué par les Nations Unies pour cette année internationale de la femme est 80 fois moins élevé que celui de l'année mondiale de la population, qui elle s'est tenue l'année précédente, dans le but de souligner le rôle essentiel de la démographie dans l'évolution des sociétés. Au lendemain du lancement de l'année internationale de la femme, à chaque émission télévisée son micro-trottoir, pour tenter de comprendre ce que les Françaises et les Français attendent, ou n'attendent pas d'ailleurs, de cette initiative.
Il faut quand même que l'homme soit l'homme, quoi. Hein, c'est pas la femme qu'il faudrait voir.
Hein. Ça veut dire quoi que l'homme soit l'homme?
L'homme, c'est lui qui a toujours qu'il faut qu'il dirige.
Pour vous, ça n'a pas particulièrement d'intérêt de faire une année de la femme?
Oh non, pas du tout.
L'année de la femme? Pourquoi année de la femme plus que de l'homme, de toute façon?
Vous trouvez pas que c'est nécessaire?
Nécessaire. Je suis pas tellement pour cette lutte entre l'homme et la femme. Il doit plutôt y avoir union et non désaccord.
La femme, elle a tous les droits. Hein.
Elle a tous les droits ou elle ne les a pas encore?
Elle aura de toute façon. Un jour, je ne sais pas.
Je pense que c'est totalement bidon. C'est uniquement une question de propagande politique.
Propagande pour qui?
Expliquez voir.
Le gouvernement, uniquement. Mais en le satirait, peut-être, certaines sympathies.
Au micro des journalistes de l'époque, sur les marchés d'Alsace et de Picardie, rares sont les passants et les passantes, quand ils sont au courant d'ailleurs, à se réjouir de cette année de la femme qui commence. C'est que, en 75, le mot féminisme fait peur, tant chez les Français que chez les Françaises elles-mêmes. On reproche à ces militantes d'être anti-hommes, extrémistes, sectaires, hystériques, violentes, j'en passe. Pour une liste complète, voyez ce qui se passe aujourd'hui. Ce genre de critique contre le combat féministe n'a pas cessé. La planète réac, très en forme en ce moment, veille au gras. Dans les premières semaines de l'année de la femme, les parlementaires français vont voter la version finale d'une loi majeure, réclamée depuis longtemps par le MLF, par les militantes des partis politiques de gauche et d'extrême gauche, et par d'autres mouvements comme le planning familial, Choisir ou le MLAC, la légalisation de l'avortement, bien sûr. La ministre de la Santé, Simone Veil, qui va porter le projet, s'en félicite.
C'est un problème qui est posé depuis longtemps déjà. Il y a eu des propositions de loi depuis 1970-71 déjà. Alors je crois qu'il y a eu un texte voté et un texte qui est très très proche du projet qui avait été déposé par le gouvernement. C'est sur ce plan très positif.
Certains pensent que c'est une double victoire pour les femmes. D'abord parce qu'il n'y aura plus d'avortement clandestin. Et ensuite parce que c'est la première fois qu'une femme a l'occasion de défendre un grand projet devant le Parlement français.
Oui, vous savez, la victoire, je ne sais pas si ce sont les mots tellement appropriés. Je dirais que c'est un progrès. Sans ça, une victoire personnelle, une victoire féminine, je crois que là aussi, c'est le fait que ce soit une femme ou un homme n'est pas tellement important sur savoir qui l'a défendu. Simplement, je pense que le fait que ce soit une femme a fait qu'on l'a présentée d'une façon en insistant sur le fait que pour les femmes, justement, l'avortement, c'était toujours un drame et non pas une question de convenance.
La loi qui entre en vigueur le 17 janvier 1975 laisse de côté les femmes mineures, étrangères et précaires et déçoit, de ce fait, une partie des militantes. Valérie Giscard d'Estaing est parfois accusée d'opportunisme ou d'instrumentalisation. Pour le MLF, par exemple, ni la féminisation de son gouvernement, ni le secrétariat à la condition féminine, ni la loi sur l'avortement ne sont la preuve d'un féminisme d'État, mais simplement d'un alignement intéressé sur l'air du temps, voire une façon d'enterrer les luttes féministes. D'ailleurs, la loi dépénalise l'IVG au nom de la santé publique, mais n'en fait pas encore un droit pour les femmes. Le 1er mars 1975, le gouvernement français et sa secrétaire à la condition féminine, Françoise Giroud, lancent les Journées internationales de la femme qui se tiennent au Palais des Congrès à Paris dans le cadre de l'ONUSIENNE Année internationale de la femme. Des représentantes d'associations et des femmes politiques étrangères sont invitées à se réunir pour faire le bilan de la situation en France et dans le monde. 2000 d'entre elles, venues de 53 pays, se rencontrent et échangent lors d'un rendez-vous tel qu'il n'en existe pas à l'époque dans l'Hexagone. Lors du lancement de ces journées, Giscard voit son discours quelque peu chahuté.
Mesdames les ministres, mesdames les parlementaires, et puis aussi, messieurs les présidents du Conseil économique et social, du Conseil d'État, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, au commencement était l'esclavage et la première esclave fut la femme. Les femmes n'ont pas attendu 1975 pour prendre conscience de leurs problèmes et 1975 ne suffira pas à résoudre ceci. Mais l'idée d'une année internationale de la femme est la preuve de la formidable transformation à laquelle nous participons et que nous voulons accomplir.
Des militantes des jeunesses communistes jettent des tracts dans la foule avant d'être évacuées par le service d'ordre du Palais des Congrès. Quant au MLF, le mouvement de libération des femmes, il refuse de participer à ce rendez-vous institutionnel autour duquel le gouvernement communique largement. Plus généralement, les membres du MLF, comme d'autres militants de gauche et d'extrême gauche, refusent de participer à cette année internationale de la femme. L'appellation même de cet événement, année de la femme, donc au singulier, en français, quand l'ONU parle de International Women's Year au pluriel, traduit la position des instances françaises, en très grande majorité dirigées par des hommes. Dire la femme et non les femmes, c'est considérer qu'elles sont toutes les mêmes, figées dans une représentation unique, qui les réduit à des attributs soi-disant féminins auxquels beaucoup se sentent étrangères. Pour le MLF notamment, il ne s'agit pas d'améliorer la condition des femmes par quelques mesures prises ici et là au cours d'une année de la femme, qui sera bien vite terminée, non, il faut abolir les rapports de domination. Dans les premiers mois de 75, boycotts et manifestations parallèles sont annoncés. Le 8 mars, le MLF et d'autres groupes féministes affiliés publient un communiqué de presse. Nous refusons de nous laisser enfermer dans une année gadget, dans un programme, un cadre, une date, écrivent-elles. Nous proposons à toutes les femmes de nous regrouper dans la rue contre l'année internationale de la femme. À Paris et ailleurs en France, le 8 mars, des travailleuses, des intellectuels, des étudiantes, des lycéennes défilent dans les rues. 1976 sera l'année du chien, le plus fidèle ami de l'homme. Ou l'année de la femme n'est même pas bisextile, peut-on lire sur les pancartes des manifestantes. Pour l'émission Interactualité sur cette même antenne, France Inter, le journaliste Pierre Alain suit un groupe de manifestantes au Salon des Arts Ménagers à Paris.
Une manifestation bruyante du MLF ce matin au Salon des Arts Ménagers à Paris. Pour les 80 militantes du mouvement de libération de la femme, ce salon est devenu le symbole de la femme esclave, arborant bannières et banderoles sur lesquelles on pouvait lire planche anatomique détaillée d'une mégère apprivoisée, rien que cela. Les manifestantes ont défilé parmi les stands en scandant bon nombre de slogans, vous allez le constater. Les visiteurs de cette avant-dernière journée du 44e salon ont pour la plupart été surpris par cette démonstration. Sous les regards parfois ébahis, indifférents ou encore irrités, on pouvait assister à des dialogues passionnés et, il faut le reconnaître, savoureux. Henri Charpentier l'a remarqué aussi.
Ils veulent se faire avorter, hein, bien même des crèches. Alors, ça parle pas de faire des crèches quand on veut avorter.
Mais vous tombez pas dur, je nous fous que la gloire et puis c'est tout.
Vous venez emmerder les gens qui travaillent ici. C'est une honte, c'est un scandale.
Les femmes dans la rue, pas dans la cuisine. Les femmes dans la rue.
Si le MLF décide de défiler ce 8 mars 75, ce n'est pas parce que se terminent les journées internationales de la femme, organisées à Paris par le gouvernement, mais parce que ce jour est depuis le début du siècle celui des femmes travailleuses. Le 19 mars 1911, en effet, suite à une proposition de l'Allemande Clara Zetkin lors de la Seconde Internationale, des manifestations s'organisent en Europe pour revendiquer le droit de vote des femmes et se battre contre les discriminations qu'elles subissent au travail. 6 ans plus tard, le 8 mars 1917 donc, des femmes manifestent en Russie contre le régime tsariste, initiant la grève générale et la révolution de février. Lénine instituera en 1921 la Journée internationale des femmes et des ouvrières. Et c'est donc à cette histoire que se réfèrent les militants du MLF lorsqu'elles défilent contre l'année de la femme en 75.
France Inter, Affaires sensibles.
Le 23 juin 1975 s'ouvre donc à Mexico l'un des événements majeurs de cette année internationale de la femme. Une conférence mondiale où, pendant plus de 10 jours, les délégations gouvernementales de 133 pays se rencontrent afin d'identifier objectifs et stratégies. Un rendez-vous officiel dédié aux femmes, le premier dans l'histoire de l'ONU, qui s'accompagne d'un événement parallèle, le Forum des organisations non gouvernementales, prévu en même temps que la conférence pour près de 4000 membres d'ONG. Beaucoup de monde donc, et un programme ambitieux, discuter de la situation des femmes dans le monde entier et fixer un plan d'action commun. Le contexte politique d'alors est marqué à la fois par la division politique et idéologique de la planète en deux blocs et par la remise en cause de cette partition de la part de ce qu'on appelle alors le tiers-monde. D'un côté, à Mexico, les pays industrialisés, menés par les USA, la RFA et le Royaume-Uni, concentrent leurs efforts sur l'éducation et l'emploi comme levier de l'égalité entre les sexes. De l'autre, le groupe des 77, une coalition de 77 pays en développement, dont l'Inde, l'Égypte ou le Mexique, qui affirme dans une résolution commune que le colonialisme, le néocolonialisme, le racisme, la ségrégation raciale, la course aux armements, un système socio-économique injuste, tout cela fait obstacle à la promotion des femmes. Malgré la signature d'un plan mondial d'action qui doit permettre de favoriser l'accès des femmes à l'éducation, à l'emploi, la vie politique, la santé, le logement, la nutrition, la contraception, Françoise Giroud, la secrétaire d'État à la condition féminine et représentante de la France à Mexico, estime que la conférence est un échec.
Ce qui est un échec complet, c'est l'impuissance des femmes à, inventer un langage nouveau. Ça ne s'est passé à aucun moment, ça a été un champ clos de batailles idéologiques. Pourquoi pas des batailles idéologiques? Les femmes peuvent aussi les mener, mais alors pourquoi dans cette enceinte? Tout ça a été assez grotesque à cet égard, assez pénible. Et je trouve personnellement que la déclaration qui accompagne le plan d'action est dérisoire. Je dis qu'elle est dérisoire parce qu'elle n'apportera rien à ceux qui l'ont signée, qui l'ont soutenue, et qui expliquent que l'impérialisme et le sionisme empêchent l'émancipation des femmes et rien d'autre. Alors, bon, ça empêche peut-être l'émancipation des femmes, et puis ça empêche aussi la peinture à l'huile, et puis ça empêche aussi de faire de la bicyclette le dimanche. Enfin, tout ça est tout à fait vraiment grotesque.
4 mois plus tard, c'est à Berlin-Est que se tient le congrès de l'année de la femme, avec 2000 participantes et 84 organisations internationales qui se réunissent pendant 4 jours lors d'un événement conçu comme l'Anti-Mexico. Tandis que la conférence mondiale des femmes avait été financée par un fonds privé américain, le congrès de Berlin est organisé par la Fédération démocratique internationale des femmes, une organisation proche du mouvement communiste et pro-URSS. 38 Françaises y sont invitées, issues de la Communiste Union des Femmes Françaises, de l'Association Choisir de Gisèle Halimi ou encore de l'Action Catholique des Femmes. Comme à Mexico, les discussions aboutissent sur des déclarations, des synthèses et des documents incitatifs à destination de tous les pays concernés, mais aussi sur des critiques. Certaines participantes regrettent que leurs revendications aient été étouffées par des questions politiques et idéologiques sans rapport avec la cause des femmes. En France, quelques réformes vont être votées en cette année de la femme, soutenues ou non par la secrétaire d'État à la condition féminine, Françoise Giroud, et dans la mesure des possibilités offertes par la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. La très attendue dépénalisation de l'avortement en janvier, portée par la ministre de la Santé Simone Veil, est suivie par des mesures plus modestes, moins médiatisées, moins débattues. Françoise Giroud, les détails sur le plateau de France 3 Région à Lille.
Les femmes chefs de famille pourront désormais déduire de leur impôt 1800 francs par an au titre de la garde des enfants. Toutes les femmes peuvent désormais présenter un concours d'entrée dans la fonction publique jusqu'à 45 ans. La limite d'âge a été reculée. Une femme peut avoir aujourd'hui 2 semaines de congé maternité supplémentaires, remboursées à 90% si elle est souffrante à la fin de son congé de maternité légal et si le médecin donc le recommande. À partir du 1er janvier, elle pourra retirer de l'argent sur la caisse d'épargne, le livret de caisse d'épargne de ses enfants sans l'autorisation de son mari. Enfin, il faut savoir que l'on peut désormais déposer plainte en justice si un emploi vous est refusé sans motif légitime parce que vous êtes une femme ou en raison de votre situation de famille.
L'autre avancée dont François Giroux se félicite en cette année internationale de la femme, celle qui a vu la création du secrétariat d'État à la condition féminine qu'elle dirige, n'est pas mesurable, mais dit-elle. Les droits des femmes, désormais, on en parle. En tout cas, on en parle davantage. Un peu partout en France, de nouvelles consciences s'éveillent en effet, et certaines femmes, autrefois résignées, s'unissent, écrivent, revendiquent, et au-delà de l'engagement plutôt limité du gouvernement. L'une des luttes principales de cette fin d'année 75, qui va réunir des associations et des militantes de tous bords, féministes révolutionnaires ou réformistes, subventionnées ou pas, marxistes ou catholiques, c'est la lutte contre le viol. Autrefois relégué aux rubriques faits divers ou affaires de mœurs dans la presse, le viol va faire son entrée dans le débat public comme sujet de société, sans que l'agenda politique du gouvernement ne l'ait anticipé. En 74, deux touristes belges, violés dans leur tente par trois hommes à Marseille, voient le crime requalifié en coups et blessures, comme c'est souvent le cas dans ce type d'affaires à l'époque. Le 15 octobre 75, alors que l'année de la femme se termine, l'avocate Gisèle Halimi, également fondatrice de l'association Choisir, obtient que le procès soit renvoyé en cour d'assises, là où n'on juge pas les délits, mais les crimes. L'annonce de ce procès marque le début d'une grande campagne nationale portée entre autres par l'association Choisir la cause des femmes et par le MLF. Il s'agit de soutenir les deux victimes tout en dénonçant publiquement le viol comme le symbole extrême de l'oppression des femmes. Il faudra attendre encore 3 ans pour que les coupables soient condamnés.
Est-ce que vous savez pourquoi elle a été faite cette année de la femme ?
Non.
Et vous-même ?
En gros, oui, mais... Pour peut-être pour l'égalité de l'homme et de la femme.
Et vous, madame, est-ce que vous avez entendu parler de l'année de la femme ?
Comme tout le monde.
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, vous savez, il y a du pour et du contre là-dedans. Hein.
Oh, c'est un échec.
C'est un échec, selon vous ?
C'est-à-dire que je pense que c'est inutile parce que j'ai toujours eu dans l'idée que la femme était l'égale de l'homme. Je ne suis pas misogyne.
C'est inutile pour vous, mais est-ce que ça l'est pour les autres personnes ?
Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est...
Est-ce que vous croyez qu'on a réussi à les sensibiliser, en tout cas ?
Oh, j'ai entendu, vous savez, beaucoup d'hommes, des collègues qui en souriaient. Alors sensibiliser, peut-être, mais d'un point de vue gag, si vous voulez, un petit peu.
Ça n'est pas pris au sérieux ?
Non, je ne pense pas que ça soit au sérieux. Je ne pense pas.
En décembre 75, dans la presse, à la radio, à la télé, c'est maintenant l'heure du bilan pour cette année internationale de la femme. Alors à chacun son article, à chacun sa chronique, qui pour se féliciter d'une opération salutaire, qui pour regretter ce qui a été parfois perçu comme une simple opération de communication, voire une mascarade, que ce soit sur le plan international ou en France. Sur Antenne 2, Bernard Pivot, lui, décide de tourner la chose en dérision, avec une émission au titre censé être drôle et diffusée le 30 décembre 1975, intitulé « L'année de la femme, ouf, c'est fini ». Sur son plateau, le présentateur invite la secrétaire d'État à la condition féminine, François Giroux, aux côtés de personnalités du monde politique, médiatique ou culturel qu'il surnomme les plus fiéfés misogynes de France. Il y a, entre autres, dans cette engeance, le navigateur Marc Linsky, le chroniqueur culinaire Christian Guy, le présentateur télé Jacques Martin. Tous le disent sans embâge, la place de la femme n'est ni sur un bateau, ni dans la cuisine d'un grand restaurant, ni sur un plateau de télé, sinon ça saurait. Quant à l'ancien ministre de Georges Pompidou, Alexandre Sanguinetti, voilà ce qu'il dit à Anne Sinclair.
Vous m'avez dit les femmes c'est un sujet détestable, c'est vrai ?
Mais non, c'est pas un sujet détestable. Dans les sociétés européennes, il y a longtemps qu'il est réglé.
Alors
le vrai problème de la femme se pose dans les sociétés non européennes. L'égalité de la femme est évidente, normale, nécessaire, à une condition, c'est qu'elle n'oublie pas la différence et la complémentarité. Si elle se présente uniquement en rivale de l'homme, sur les mêmes plans que l'homme, il y a beaucoup de chances pour qu'elles ne soient pas de la même force. Quand on lit la littérature à travers les siècles, on constate que les hommes sont plus souvent victimes que bourreaux.
Dans l'histoire, les hommes ont été plus fréquemment victimes des femmes ?
Ah oui, il n'y a pas l'ombre d'un doute.
Vous avez l'impression que durant cette année de la femme, il y a eu une revendication plus grande du sexe féminin ?
Oui, il y a une agressivité de la part des femmes qui ne sont pas femmes. Ça, c'est vrai. Parce que les autres n'ont pas de problème à se poser, les hommes sont à leurs pieds.
Mais ce qui dérange dans cette émission, peut-être encore davantage que ces explosions de misogynie ordinaire, ce sont les réactions de François Giraud. À côté d'un Bernard Pivot apparemment satisfait du déroulé des événements, la secrétaire d'État à la condition féminine ne réagit pas aux remarques moqueuses, sexistes, discriminatoires et parfois violentes des différents invités. Là où l'on pourrait espérer qu'elle mette les points sur les i, elle s'offusque en apparence, mais très peu. Toujours souriante, presque badine, sans doute gênée, comme si elle voulait éviter les clichés de la féministe rabat-joie ou hystérique, le mot préféré des hommes qui n'aiment pas les féministes. Alors elle ne dit rien, François Giroud, ou presque, et s'autorise même quelques réflexions des plus dangereuses. La réponse à cette émission n'arrivera que quelques mois plus tard. Les Insoumuses, un collectif de vidéastes militantes proches du MLF, propose un film qui détourne l'émission d'Antenne 2. En guise d'introduction, ce carton sur lequel est écrit « Nous avons éprouvé le besoin immense d'exprimer notre point de vue, de répondre. Nous avons toujours pensé que le secrétariat à la condition féminine et l'année de la femme étaient une mystification. En voici une preuve officielle. » Le film, qui commente l'émission de Bernard Pivot, s'intitule « Maso et Miso sous pont en bateau ». Miso pour le présentateur d'apostrophe et Maso pour sa victime, François Giroud. Par des arrêts sur images, des intertitres, des répétitions, les Insoumuses s'offrent un droit de réponse à la fois militant et humoristique, souvent féroce envers la secrétaire d'État à la condition féminine. Dans cet extrait, Bernard Pivot lui propose d'écouter la chanson « Mon homme » de Miss Tinguette, puis de donner son avis sur les paroles.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui. De mon homme. Ce n'est pas qu'il soit beau, qu'il soit riche ni costaud, mais je l'aime. Cet idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous ?
Stop ! Stop, non, parce que là, il y a vraiment des phrases qui doivent vous indigner, madame la ministre.
Indigner ? La secrétaire ? Non !
Il me fout des coups, il me prend des sous, je suis à bout.
C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour. C'est une chanson d'amour.
Oui, c'est une chanson d'amour, oui.
Oui, il y a différentes manières d'exprimer l'amour, mais c'est une chanson d'amour. Il y a différentes manières d'exprimer l'amour. Il y a différentes manières d'exprimer l'amour. Il y a différentes manières d'exprimer l'amour.
Malgré les tentatives de François Giroud d'empêcher la diffusion de Miso et Maso vont en bateau, le film est projeté dans un cinéma parisien et dans des cercles militants. Certains et certaines le trouveront injuste envers la secrétaire d'État et son désir sincère de faire bouger les lignes. D'autres y verront surtout la volonté des réalisatrices de s'affirmer comme sujet, au-delà de l'assignation à leur condition féminine, au-delà de l'assignation à n'être qu'une femme, la femme, celle que l'année 75, qui se termine alors, ne semblait célébrer qu'au singulier.
Des femmes avec nous ! Des femmes avec nous !
Moralité, ce qu'aura démontré l'année internationale de la femme, voulue par l'ONU, portée en France par la secrétaire d'État à la condition féminine François Giroud, c'est bien que la femme est une invention. Féministe ou pas, révolutionnaire, réformiste, au gouvernement ou dans la rue, il existe des femmes avec des revendications et des luttes. Car en 75, comme en 2022, nulle part dans le monde, les femmes ne sont encore l'égale des hommes. Au niveau international, cette année internationale de la femme aura tout de même permis de dresser un premier bilan en vue d'actions à venir, et ce, malgré la diversité des pays membres. En 1976, François Giraud présente en Conseil des ministres les 101 mesures pour les femmes qu'elle a concoctées au cours de l'année passée, afin d'arriver à ce qu'elle appelle l'équivalent social. Des mesures variées, comme l'interdiction de renvoyer une femme sur le prétexte d'une grossesse ou le versement d'une allocation postnatale pour chaque enfant. Une fois ces mesures adoptées, la secrétaire d'État démissionne et son secrétariat d'État est supprimé. Par la suite, François Giroud regrettera publiquement le manque de moyens et l'absence de coopération des autres ministères. Elle fera le bilan de son année de la femme avec ces mots « Il n'y a pas de secrétariat d'État au miracle ».
Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, 1975, l'année de la femme. Notre invitée Fatima Benomar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militante pour les droits des femmes, cofondatrice de l'association Les Effrontées. EES est l'autrice de « Féminisme, la révolution inachevée » publiée en 2013 aux éditions Bruno Le Prince. Alors, on l'a vu, le combat pour le droit des femmes, et ça n'est pas qu'un symbole, hein, passe aussi par la sémantique. Exit la femme au singulier, place aux femmes au pluriel. Quel est le sens de cette évolution du vocabulaire?
Je pense que le vocabulaire a petit à petit épousé le sérieux des sciences sociales qui s'intéressent à la condition des femmes. Et c'est vrai que les femmes ne sont pas une idée. C'est Simone de Beauvoir qui disait « L'éternel féminin, c'est l'homologue de l'âme noire et du caractère juif ». C'est-à-dire qu'elle a souligné l'importance de désessentialiser en fait cette identité et d'en faire en fait de faire des femmes des sujets politiques. C'est-à-dire que l'état aujourd'hui de leurs droits est le fruit de rapports de force. Et d'ailleurs, il a fallu attendre le début des années 70 pour qu'on ait un premier séminaire en master à l'Université Paris 7 qui s'appelait « Les femmes ont-elles une histoire ?». Donc c'était important, oui, il y a beaucoup d'ironie dans cette appellation. Donc c'était important d'historiciser tout ça. C'est une histoire qui est extrêmement intrusive dans nos vies et dans nos corps. On a parlé des droits reproductifs. D'ailleurs, c'est important de voir aussi la diversité des femmes. C'est pour ça qu'on dit « les femmes ». C'est-à-dire qu'en France hexagonale, pendant qu'on luttait pour le droit à l'avortement et à la contraception, dans les dom-toms, à La Réunion, l'IVG, la stérilisation étaient imposées aux femmes de La Réunion. Et pendant qu'en France, on interdisait la publicité de la contraception, il y avait avec l'argent public des publicités nationales pour la contraception. Donc c'est vraiment quelle femme il faut laisser faire famille, quelle femme dont il faut contrôler la maternité. Est-ce qu'elle doit faire des enfants pour la nation ou est-ce qu'il faut restreindre ses maternités ?
Et sur l'évolution du vocabulaire, par exemple, les droits de l'homme sont devenus, c'est normal, les droits humains, parce que les droits de l'homme sont aussi les droits de la femme, autrice. Et quel bilan tirez-vous de cette évolution du champ lexical ? J'insiste un peu là-dessus parce que je pense que c'est important. Alors, de la part de la parole publique, hein, évidemment, les gens en privé, on les entend pas. Mais publiquement, vous trouvez qu'il y a un progrès qui est respecté ?
Ben, en tout cas, ça nous rappelle que l'histoire des femmes n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il fut un temps où on utilisait les termes autrice, peinteresse, philosophesse, etc. Et puis, pour des raisons idéologiques, et il le souligne, quelqu'un comme Vaugelas va dire non, il faut que le masculin l'emporte parce que l'homme est supérieur à la femme. Il le dit noir sur blanc et c'est revendiqué. Et c'est vrai que les femmes, dans la sémantique et ailleurs, sont toujours perçues comme la deuxième moitié de l'humanité. C'est-à-dire que même quand on raconte des blagues, en fait, tous les personnages sont par défaut masculins, sauf si on a besoin qu'un personnage soit féminin. Quand on montre l'évolution avec ces quatre figures du singe à l'humain, c'est forcément des hommes. Quand on apprend à nos enfants les animaux, et ben on apprend les mâles et la femelle de tel animal, voilà. Donc c'est rentré dans les inconscients qu'il y a le mâle et sa femelle dans le monde.
Quand vous entendez des propos des années 70, alors vous n'avez pas connu, vous êtes une jeune femme, quelle est votre réaction quand on entend Sanguinetti, par exemple, qui dit « ben non, c'est pas sa place sur un bateau ». Enfin, il y en a un autre qui dira « c'est pas sa place sur un bateau ». Enfin, parmi toutes ces énormes bêtises, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ben, en fait, c'est l'anthropologue Françoise Héritier qui dit que pour maintenir un système de domination sur le temps long, typiquement en parlant du patriarcat, il y a l'idée de les frustrer de leur droit à disposer de leur corps, de l'accès au savoir, de l'accès au pouvoir politique, etc. Et pour que ça tienne, il faut le mépris et le dénigrement. Ce sont les liants de ces piliers. C'est-à-dire que pour, en fait, légitimer le fait de la constance de cette domination masculine et de son importance, il faut toujours trouver le temps de se moquer des femmes, de faire des rappels à l'ordre de leur infériorité. Après, moi, je suis jeune, bon, j'ai 38 ans, je ne suis pas si jeune que ça, mais il y a encore quelques années, sur une chaîne de radio concurrente, une auditrice appelle pour parler de foot et le mec en plateau lui dit « Écoutez, moi, je ne parle pas de foot aux femmes, qu'elles retournent à leur casserole. »
Bah, elle ne va pas aller sur la concurrence.
Absolument.
Elle va qu'à rester chez nous, on n'aurait pas entendu ça. Bon, effectivement, c'est... Alors, il y a cette journée des droits des femmes, le 8 mars. Alors, je suppose que vous n'aimez pas ces dates figées comme ça et que vous voudriez que le 8 mars soit toute l'année.
Bah, en tout cas,
enfin, c'est mieux que rien. Est-ce que c'est mieux que rien de faire une journée comme ça ou est-ce que c'est contre-productif ?
C'est-à-dire que nous, on a besoin du côté du mouvement de ritualiser. C'est-à-dire que ce qui est médiatisé, effectivement, c'est toute la récupération, marketing, institutionnalisé, dérisoire, etc. Mais c'est un rendez-vous aussi dans la rue. C'est-à-dire que tous les 8 mars, il y a une mobilisation, une grande manifestation avec des revendications. Et pour que le 8 mars marche, il faut le préparer. C'est-à-dire que pendant des semaines, il y a un branle-bas de combat chez les militantes qui vont faire distribuer des tracts sur les marches, etc. Et donc, politiser encore une fois cette thématique. Et donc, ça nous permet effectivement de maintenir la pression. En plus, nous, on a deux dates. On a le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, la journée internationale contre les violences faites aux femmes, qui maintenant voit des énormes manifestations donc organisées par nous toutes, donc un collectif de collectifs,
on connaît,
où toutes les associations se retrouvent. Et donc, mais c'est aussi intéressant de rappeler, en fait, à ces moments-là, des colloques pour rappeler qu'il n'y a pas de pente naturelle vers l'égalité et que, en fait, il faut se souvenir, bah, typiquement, si je prends deux exemples, en France, pendant la Révolution française, on arrive à avoir certains acquis. Parce qu'il y a une mobilisation de femmes pendant les révolutions. Donc l'égalité civile, que l'ancien régime déniait, l'égalité d'esté en droit, la capacité juridique, etc., le divorce, par contre pas de droit politique, il faut pas aller trop
loin. Attendre.
Faut pas aller trop loin trop vite. Et hop, au moment où il y a le coup d'état de Napoléon Bonaparte, on le commémore très peu hein, quand il y a des commémorations de Napoléon, mais c'est un enterrement de première classe pour les droits des femmes, et les femmes françaises commencent à avoir la pire situation de toute l'Europe, des États-Unis, face aux Suédoises, aux Anglaises, aux Allemandes, etc. Et vraiment, hein, une totale subordination, pas le droit de découcher sans que la force publique vous ramène à la maison, pas le droit de passer un examen, de se soigner, d'avoir un passeport, d'étudier ou quoi que ce soit sans l'autorisation du mari. Donc c'est important, en fait, de rappeler aux femmes à chaque fois que c'est par la force de ces grands rendez-vous et de ces mobilisations qu'on arrive à avancer. Il n'y a jamais eu d'escalator vers l'égalité.
Voilà, mais on doit se comporter le 7 mars et le 9 mars comme pendant le 8 mars. L'égalité et la non-égalité salariale entre les hommes et les femmes à compétences égales, à travail égal, est-ce que vous pensez que ça devrait être la mère de tous les combats ? Qu'à partir du moment où on en sera encore là, de toute façon, ça ne sera pas gagné. Quoi.
Ça va plus loin que la question de l'égalité à travail et à poste égal. Parce que justement, ce qui structure encore énormément l'égalité, les inégalités en France, c'est que, juste pour vous donner un chiffre, la moitié des femmes en France sont cantonnées dans 12 des 86 catégories socioprofessionnelles qui sont répertoriées par l'INSEE. Caissières, vendeuse, femme de ménage, femme de chambre, secrétaire, infirmière, etc. Donc on est loin du fantasme d'un monde du travail mixte, où l'enjeu serait l'égalité à poste et à travail égal, puisque la plupart des métiers sont très très loin d'être mixtes, et qu'il y a un cantonnement de la moitié des femmes. Deuxième chiffre, une femme sur trois active en France est à temps partiel. C'est-à-dire qu'elle a un salaire partiel, c'est-à-dire qu'elle a une retraite plus tard partielle. Et donc c'est bien comme ça qu'on se rend compte en fait des marges de manœuvre qu'ont aussi ces femmes, parce que la thématique du travail, pourquoi elle est aussi importante, c'est qu'elle contamine toutes les autres.
Ah, c'est pour ça que je parlais de mère des batailles.
C'est
quand même.
Ça. Quand on n'a pas d'autonomie financière, on a beaucoup moins de marge de manœuvre pour quitter un conjoint violent, ne serait-ce que ça, pour pouvoir partir avec ses enfants. Et c'est pour ça que la grève des femmes est une thématique aussi importante pour imposer un rapport de force, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté, alors c'est pas que depuis cette année, c'est depuis le 8 mars 2017 qu'on fait la grève des femmes chaque 8 mars pour repolitiser un petit peu ce rendez-vous. En Islande, si vous vous souvenez, il y a quelques années, la même année d'ailleurs, 2017, il y a eu une grève massive des femmes pour l'égalité salariale. Mmh. Et même quand c'est pas lié au travail, par exemple en Pologne ou en Espagne, il y a eu des mobilisations de masse et des grèves pour le droit à l'avortement au moment où leurs gouvernements respectifs ont voulu reculer dessus. Et puis j'ai parlé tout à l'heure de ces métiers très féminisés, c'est là qu'on a vu les grèves victorieuses de ces dernières années. Les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, qui étaient donc sous-traitées par des agences où leurs conditions de travail étaient déplorables. Il y a quelques années, c'était les femmes dans les ongleries et les salons de coiffure du nord de Paris qui étaient sans papier, qui ont fait grève et même ont autogéré leur salon jusqu'à leur régularisation. Il y avait les femmes, là aussi, qui subissaient la sous-traitance, qui s'occupent du nettoyage des gares du nord de Paris, donc le sous-traitant Honnête. Mmh. Donc on a vu des grèves des femmes, et en plus des grèves qui allaient au bout et qui portaient leurs fruits.
Les effrontés, à la différence du MLF, se revendiquent comme un mouvement mixte, on est bien d'accord.
Oui.
C'est fondamental qu'il soit mixte pour sa crédibilité, pour son efficacité.
Pour sa crédibilité, je pense. En fait, c'est vrai que depuis que notamment une association qui porte ce nom, c'est Clémentine Autain qui l'avait créé, Mixité s'est créé, c'est devenu un peu un gage quand même de modernité, de cessez-le-feu, de voilà, on arrête les hostilités, on accueille les hommes dans les entraîne un peu dans nos mouvements. Et c'est vrai que c'est quelque chose, la première revue qu'a fait les effrontés, parce qu'on a une petite revue associative, c'était sur la place des hommes dans le mouvement féministe. Le collectif Georges de Sand qui s'est créé juste après, leur première campagne, c'était sur l'homme féministe. Après, je me demande si c'est pas parce qu'on intériorise un peu tellement ce stigmate que les femmes, les féministes seraient contre les hommes, qu'on voudrait envoyer un peu des messages positifs. Mais il n'empêche qu'on garde la tradition au sein de nos associations de réunion en non-mixité, parce qu'il n'y a pas photo. Donc, dès que les femmes se retrouvent entre elles, elles parlent différemment des violences qu'elles subissent, et sans doute par bienveillance envers les hommes, quand ils sont là, elles font bien attention à ce qu'elles disent pour ne peut-être pas les heurter ou avoir l'air de les attaquer.
Aujourd'hui, selon vous, parmi, alors on va pas faire la liste, on n'a pas le temps, mais parmi les combats que vous avez menés, que toutes les femmes pour leurs droits ont menés en France, alors bien sûr il y a l'IVG, bien sûr, mais après l'IVG, c'est quoi pour l'instant la victoire ? Est-ce qu'il y a une victoire ? Est-ce qu'il y a un terrain sur lequel vous pouvez vous dire, vous les femmes, ouais ça y est, on a quand même bien avancé quoi.
Alors, je vais commencer par la négative. C'est vrai que quand je parle aux vieilles féministes des années 70, ce qu'elles me disent, c'est qu'elles pensaient, dans les années 70, que la thématique féministe était devenue un sujet politique majeur. Il y avait eu des procès, vous l'avez rappelé, il y avait eu des actions symboliques importantes, des acquis. Et du coup, elles disaient, mais on ne peut pas revenir sur cette mémoire. Et moi, quand j'ai commencé à militer en 2009, je n'avais jamais entendu parler. Ce n'était plus un sujet politique. Donc là, on a l'impression qu'avec MeToo, ça revient, on dit qu'on ne peut pas détruire cette mémoire. Mmh. Et bien peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, ça sera complètement effacé du champ des débats publics. Donc c'est pour ça que ça m'émeut de réentendre parler de ces films de Carole Rossopoulos, des Insoumuses, etc. Il faut continuer cette production théorique, des films, des documentaires, etc. pour occuper le terrain et pour s'attendre à ce qu'au moment où on va se désintéresser encore une fois de nous, on soit encore là et on prépare, on va dire, la tension médiatique et même la tension empathique. Si MeToo a marché, c'est parce qu'il y a eu une préparation de terrain des féministes pour que cette parole soit respectée et écoutée. Et donc, s'il y a un acquis, peut-être, c'est, je pense, avec MeToo, l'idée qu'il y ait une telle déferlante de parole et que des femmes ont entendu justement cette expression « moi aussi » qui font que, comme le dit l'hymne des femmes, reconnaissons-nous les femmes et reconnaissons les parallèles de nos vécus. C'est-à-dire que quand on est avant, qu'on n'est pas conscient de toutes ces luttes féministes, on a l'impression que toute la pluie tombe sur nous. Pourquoi il n'y a que moi que les mecs emmerdent dans la rue ? Pourquoi il n'y a que moi qu'on me fait une proposition indécente au boulot et je me retrouve à devoir me mettre en difficulté, en délicatesse avec mon supérieur hiérarchique ? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Et puis là, à la fois souffrance et bonheur de voir nos récits partout ailleurs.
Alors, autre thème qui, lui, est vraiment empreint de gravité, les violences faites aux femmes, les viols, les féminicides, parfois jusqu'au meurtre. Il y a un deuxième problème, me semble-t-il, c'est l'accueil des femmes quand elles déposent plainte auprès de la police. Il y a d'ailleurs des associations, il y en a une qui s'appelle Double Peine d'ailleurs, qui milite contre ça. C'est un chantier important, ça, hein,
oui.
J'imagine.
Déjà, un petit constat, c'est que le patriarcat, c'est un état caché, ce qui fait que il est tellement ancien, il est bien avant le capitalisme, bien avant le racisme, bien avant l'esclavage, etc., que il n'a plus besoin de l'État et de lois sexistes pour fonctionner. Aujourd'hui, le patriarcat, il fonctionne entre guillemets naturellement. Et donc, les femmes prennent leur disposition. Elles n'ont pas besoin d'être féministes pour s'habituer à penser leur stratégie, en fait. Mmh. Hop, je vais traverser telle rue qui m'inquiète, je vais mettre des écouteurs, je prévois qu'un mec va venir me chapeauter jusqu'au métro, etc. Quand je rentre tard la nuit. Et du coup, je vais vous raconter moi-même ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai subi une agression sexuelle en 2016. Je suis allée porter plainte au commissariat du 11e arrondissement. Et le policier a d'abord refusé de prendre ma plainte. Heureusement, je suis féministe, je connais mes droits, je lui rappelle qu'il n'a pas le droit de le refuser, etc. Mmh. Et au moment où je lui dis que ça s'est passé à minuit et demi, il écarquille les yeux, il sursaute, il me dit « Ah bon, vous rentrez chez vous à minuit et demi ?»
Ça peut lui faire.
Et il me dit « Bon, bah, la prochaine fois, vous ne rentrerez pas chez vous si tard, ou alors vous rentrez accompagné. » Il sait très bien lui-même qu'il ne fait pas référence à une loi. Il ne fait pas référence à un état social, il fait référence à un ordre social.
Un ordre social, absolument.
Exactement. Donc, dans cet ordre social, c'est aux femmes de prendre leur disposition.
Toute dernière chose, il en reste quelques secondes, vous pouvez répondre par oui ou par non. Pensez-vous, comme Elisabeth Badinter, entre autres, que la laïcité est un levier puissant pour le combat féministe quand on voit en effet comment est traitée la femme dans les textes religieux, quelles que soient les religions?
En tout cas, la laïcité, elle est censée être un levier d'émancipation. Ce qui me gêne chez Badinter, c'est qu'elle en fait un outil d'oppression. Et je me demande bien comment on émancipe des femmes quand on leur interdit absolument toutes les sphères où elles ont le droit d'exister.
Bon, bah c'est un débat dans le débat, on n'a pas le temps, malheureusement. En tout cas, merci infiniment Fatima Benomar d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, 1975, Année de la Femme, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Adèle Caglar. À suivre, bien sûr, Antoine Decaune pour Pop Pop Pop, ce sera tout de suite après le flash.